Ma communication aujourd'hui vise surtout à mettre en lumière l'écrivaine et salonnière Nathalie Barney, qui fut surnommée l'Amazone par Rémy de Gourmont, adopta ce personnage mythique comme figure d'identification et l'alimenta jusqu'à sa mort en 1972. Je laisserai d'abord les contours biographiques de cette femme hors norme, incarnant l'affranchissement féminin au début du 20e siècle. Je me pencherai ensuite sur quelques textes, mais surtout sur la forme de pouvoir, ou plutôt de contre-pouvoir, qu'elle a exercée au sein du milieu littéraire français, sur ce qui transparaît en fait du récit amazonien dans celui de celle qui fut aussi surnommée « The Wild Girl of Cincinnati », une appellation évoquant la liberté et la résistance, qui s'inscrit d'ailleurs aussi dans le droit fil des représentations des Amazones. Nathalie Clifford Barney est née aux États-Unis à la fin du 19e siècle, en 1876, au sein d'une famille très fortunée. Sa situation familiale privilégiée tant financièrement que sur le plan culturel, sa mère Alice Pike Barney était peintre. Donc sa situation familiale l'amena très tôt dans la vie à voyager en Amérique et en Europe, ainsi qu'à fréquenter diverses personnalités, dont Oscar Wilde, lorsqu'elle était toute jeune. C'est une rencontre qui fut marquante pour elle et qu'elle relate dans ses aventures de l'esprit. Dès la fin de l'adolescence, elle adopta Paris comme lieu de résidence. Elle explique dans Souvenirs indiscrets ce choix de vivre en France, je la cite. « Mes arrière-grands-parents, venus de France, de Hollande et d'Angleterre, se réfugient en Amérique, ont assisté à la formation des États-Unis et à notre guerre d'indépendance. Interprétant cet esprit d'indépendance à ma façon, j'ai fait un retour à mes origines maternelles et la France est devenue mon pays d'élection. Paris m'a toujours semblé la seule ville où l'on puisse s'exprimer et vivre à sa guise. À l'époque, nombreuses sont les femmes venues trouver à Paris la possibilité d'exprimer un mode de vie et de création plus libre, souvent en marge d'ailleurs des modèles dominants, exempt la plupart du temps des contraintes conjugales et familiales. » Il faut dire aussi que Nathalie Barney représente un cas rare de femme émancipée aux yeux de la loi de son époque. Sans frère ni mari, parce que le Clifford ne vient pas du nom de son mari, mais du nom de son père, Albert Clifford Barney, elle a hérité avec sa mère et sa sœur, d'une fortune colossale à la mort de son père au tournant du 20e siècle. Elle est donc libre juridiquement et libre financièrement, ce qui ne nuit pas au 20e siècle naissant à l'assurance d'agir. Quoi qu'il en soit, il n'en demeure pas moins que Barney fait partie d'une lignée de femmes peu conventionnelles qui ont su voir des possibilités pour elles-mêmes. Sa mère, Alice Pike Barney, était peintre, je l'ai dit au début, elle était peintre, mais de façon active, même après avoir été mariée et après avoir été mère de deux filles. Ses œuvres font partie de la collection du Smithsonian American Art Museum. Ici, vous voyez un de ses autoportraits à la palette. C'est anecdotique, mais disons pour donner un peu la couleur du personnage. Après la mort de son mari, elle a épousé un jeune homme de 26 ans alors qu'elle-même avait atteint la soixantaine depuis plusieurs années. Je vous montre aussi un portrait qu'elle a réalisé de sa fille Nathalie. C'est un peu sombre, mais Nathalie Barney, une vingtaine d'années sur ce portrait. Maintenant, parlons de la naissance de l'Amazone Nathalie Barney. Elle commence très tôt à afficher délibérément son désir lesbien. En 1900, elle publie un recueil de poèmes illustrés d'aquarelles réalisées par sa mère qui traite de l'amour entre femmes. Bon, son père, quand il a été informé de ce recueil de poèmes, a décidé de racheter tous les exemplaires et les a fait détruire. Mais bon, ça ne l'a pas empêché de continuer d'écrire. Elle a surtout publié des aphorismes, des textes brefs qui mettent en valeur la spontanéité et la finesse de sa pensée tout à la fois. Donc, ça ne l'a pas empêché de continuer d'écrire ni de participer à la vie sociale et culturelle parisienne. En 1909, elle s'installe rue Jacob et elle a tenu salon dans son appartement pendant plus de 50 ans. J'avais donc cherché et finalement trouvé, relate-t-elle dans Souvenirs indiscrets, une demeure entre cour et jardin dans la rue Jacob, où j'organisais un petit temple de l'amitié que je vous présente ici. Une photo des lieux. Je vous montre une photo des lieux, puis aussi une représentation du temple de l'amitié tirée des aventures de l'esprit. Donc, c'est quelques années plus tard qu'elle s'organisa une rencontre avec Rémy de Gourmont, qui lui avait déjà témoigné son appréciation d'un de ses livres, Actes et Entr'actes. Et à la suite de cette rencontre, elle s'est liée d'amitié avec lui. Ah, que l'esprit, la présence d'esprit est une belle chose, et comme je l'admire en vous, fière Amazone, jamais prise au dépourvu, toujours prête à saisir la crinière, à sauter en selle et à tendre l'arc sur votre sein brûlé. Donc, ce sont les mots de Rémy de Gourmont tirés des lettres à l'Amazone. La voyant arriver à son domicile un après-midi dans son costume d'équitation, il la baptisa ainsi, l'Amazone, inspirée bien sûr par son habillement et ses activités équestres, mais aussi par son esprit indépendant pour ses affinités avec les combattantes des récits anciens. Selon Denise Bourdet, dans ses souvenirs des salons parisiens qu'elle a consignés en un ouvrage intitulé « Pris sur le vif », Nathalie Barnet mérite bien cette appellation, l'Amazone, non seulement à cause de son goût, du goût qu'elle eut dès son enfance pour l'équitation, mais surtout pour la précision avec laquelle elle lance ses flèches et elle a plusieurs cordes à son arc. Ses flèches, ce sont ses mots, les aphorismes qu'elle décoche. Mais l'amitié qu'elle développa avec Rémy de Gourmont, stratégiquement ou non, lui conféra une présence forte dans le milieu littéraire parisien. Par un effet communicant, Nathalie devint une Amazone, puis l'Amazone, c'était Nathalie. Suzanne Rodriguez, biographe de Barnet, analyse les effets de l'amitié entre l'Amazone et de Gourmont. By taking Nathalie seriously as a writer, he placed her in the ranks of other writers he admired. By welcoming her Sunday visits, he made her a member of a highly select literary set. Le surnom donné par de Gourmont, immortalisé dans les lettres à l'Amazone, sanctionna aussi, d'une certaine manière, sa place dans une lignée de femmes fortes, affranchie des codes imposés par le patriarcat, de la même façon qu'il lui garantit une sorte de reconnaissance de légitimité et affirma son influence au sein de la société parisienne, de la société littéraire parisienne. Laura Mulvey, à propos de son film Penthesilea, Queen of the Amazons, explique cette quête de modèle féminin, de figure d'identification. Obviously, the whole concept of the Amazon is interesting from the point of view of women now. Women being so mythless, lacking myths of their own, looking at the Amazons as one of the few myths of strong women that actually exist. En réinterprétant un récit du passé, Barnet reconnaît des perspectives. Elle trouve sa place dans une histoire dont elle semblait avoir été exclue et deviendra à son tour une passeuse pour des générations futures qui prendront le relais. Vous voyez ici, bon, Nathalie Barnet dans son costume d'Amazone, puis une autre représentation d'elle avec un habit... un habit d'équitation. Élisabeth de Gramont, la duchesse de Clermont-Tonnerre, fait état des activités de Nathalie Barnet dans ses mémoires. Mademoiselle Barnet fut l'animatrice d'un grand nombre d'esprits éminents qui, au cours des années, se succédèrent auprès d'elle. Des diplomates, des membres de l'Institut, des poètes, Valérie et Miloche, des écrivains et des artistes. Il est à peine exagéré d'affirmer que l'Amazone connaissait tous les auteurs du 20e siècle naissant, tant anglophones que francophones. Ezra Pound, T.S. Eliot, Paul Valéry, Colette, Lucie de la Rue Mardru, Rachilde, Juno Barnes, Gertrude Stein, pour ne nommer que les plus exemplaires, fréquentèrent son salon. Si ses œuvres sont pratiquement oubliées aujourd'hui, quoique dernièrement, si je peux ouvrir une parenthèse, un roman inédit de Barney a été édité. Les nouvelles pensées d'une Amazone aussi ont été ont fait l'objet d'une réédition. Puis, j'ai découvert aussi un texte tout récemment, un texte de 1932 d'une auteure russe, Marina Tsvateeva, qui s'intitule « Mon frère féminin, lettre à l'Amazone » et qui est une réponse aux pensées d'une Amazone. Donc, je ferme la parenthèse, mais on peut quand même dire qu'il y a peut-être un regain d'intérêt tout de même. Mais disons que dans l'ensemble, ces textes sont quand même assez tombés dans l'oubli, contrairement au mode de vie sulfureux qui fut le sien et qui semble toujours plus persistant dans les mémoires que les textes qu'elle a écrits. Il est possible aujourd'hui de prendre la mesure de son influence auprès des auteurs du premier 20e siècle. Elle favorisa l'établissement de liens entre des auteurs, des éditeurs, puis contribua à faire rayonner des artistes émergents ou issus de l'extérieur. En outre, à l'Académie française, dont les femmes étaient exclues, la première à y être entrée est Marguerite Yourcenar en 1980, Barney oppose une Académie des femmes qu'elle fonda dans les années 20. Claude Summers, dans son encyclopédie queer des arts visuels, explique la mission de cette académie. Barney's Academy des femmes, a counterpart to the then all-maid Academy française, fulfilled this dream of continuing a tradition to provide a venue where women could perform, create, engage in meaningful conversation and safely express their desire for one another. Ce serait, à mon avis, dans cette notion de société féminine, d'esprit de force de la communauté, de ces valeurs de sororité que Nathalie Barney s'inscrit le mieux dans l'imaginaire des Amazones. À propos des modèles féminins proposés dans les légendes des mythes anciens, Mary Lefkowitz affirme dans Women and Greek Myths, « Of these legendary and mythical role models, only the Amazons have been taken seriously by feminist scholars, probably because they represent a whole society and not just singular achievement of an extraordinary individual. » Donc, la communauté avant l'individu. Offrir un lieu de reconnaissance, de promotion du talent féminin, faire contrepoids à l'institution toute masculine, ont sans doute présidé à la fondation de l'Académie des femmes. Mais l'idéal d'un traitement égalitaire des hommes et des femmes de lettres étaient bien présents. D'ailleurs, les hommes étaient invités à participer, à assister aux réunions pour célébrer leurs collègues féminines. Il y avait vraiment une volonté d'offrir une place aux femmes dans une tradition, dans l'institution littéraire. Il s'agissait d'une prise de position par l'action, tout en offrant aussi des modèles. Les premières femmes, les premières auteurs à y avoir été admises sont Colette et Gertrude Stein, Juna Barnes, Rachild, puis d'autres encore. Vous remarquerez que francophones et anglophones se côtoient parce qu'à l'instar du salon de l'Amazone, son académie était internationale. Dans Aventures de l'esprit, elle présente quelques-unes des femmes qui sont, à son avis, représentatives de la littérature contemporaine et cosmopolite, qui ont été admises à l'Académie. Selon sa biographe, Suzanne Rodriguez, l'Académie des femmes serait l'un des plus grands accomplissements de Barney. It was one of the first ever attempt to organize women writers into a cooperative and supportive environment. And for this alone, it stands a significant contribution to feminist and literary history. Donc, c'est une façon... Cette façon d'offrir un lieu pour honorer et célébrer les femmes auteurs, c'était quand même un accomplissement. L'imaginaire de l'Amazone se révèle également dans les écrits de Nathalie Barney, de même que dans ses représentations littéraires. Amazone en tant que figure auctoriale, le titre de ses pensées fait directement référence à elle en ces termes, « Les pensées d'une Amazone » d'abord, publiées en 1920, puis en 1939, les nouvelles pensées de l'Amazone. Observez ici le passage de l'article indéfini à l'article défini, comme si le personnage s'affirmait. Sous la plume de Barney, les qualités guerrières des femmes au sein coupé servent cependant un combat antimilitariste. Malgré son surnom, l'Amazone était une pacifiste, pour reprendre le titre de Carla J. Ceux qui aiment la guerre, lâche Barney dans ses pensées d'une Amazone parue au lendemain de la Grande Guerre, ceux qui aiment la guerre manquaient d'un amour ou d'un support adéquat, manquaient de l'art de vivre. Dans un article du collectif Fiction moderniste, Amélie Paquet décrit en quoi consiste l'affrontement. La femme qui répond et sème le désordre en remettant en question les idées reçues correspond à l'Amazone que le texte de Barney décrit. Elle mène son combat uniquement avec ses prises de parole. Pendant la Première Guerre mondiale, l'Amazone a tenu des réunions pacifistes dans son temple de l'amitié. Plusieurs expatriés y ont participé, mais des Français également. Rachilde, notamment, fait état de ses réunions dans ses chroniques, dans le puits ou la vie inférieure. Que ce soit dans ses pensées d'une Amazone ou dans d'autres textes qu'elle a signés, Nathalie Barney a incarné l'esprit de la combattante propre au récit des Amazones. Elle fait flèche de ses mots pour critiquer le militarisme et le nationalisme, lesquels seraient, selon elle, l'apanage du masculin. Il est temps, dit Barney, que les Amazones ne se fassent plus féconder par l'ennemi. Et l'ennemi n'est-il pas celui qui prendra à la femme son enfant pour l'élever et le tuer à sa guise? Nous ne touchons à la vie qu'avec nos cœurs, lance-t-elle. Toujours tirée des pensées d'une Amazone. J'ajouterai enfin que Nathalie Barney se révèle l'une des personnalités les plus fictionnalisées dans des textes de l'époque. Elle se retrouve au cœur de nombreux récits, faisant ainsi irradier la figure de l'Amazone, créant même peut-être elle aussi son propre mythe. À propos des représentations littéraires de Barney, Cathy Barasque explique. Elle est à la fois un lieu de réflexion au sens spéculaire du terme. Des femmes de son temps, elle les rassemble dans une figure commune sans aucunement les uniformiser. En même temps, elle est réfléchie dans les pages de ses amis. Elle est la Flossie de Claudine à Paris, l'Évangéline Musset de Juna Barnes dans Lady's Almanac, Laurette dans L'Ange et les pervers de Lucie de la rue Mardru. On pourrait ajouter à cette galerie de représentations la Valie de René Vivien, la Moonbeam de Liane de Pougy, la Valérie Seymour de Radcliffe Hall. Nathalie Barney a immortalisé ce désir de perpétuer son personnage d'Amazone, de le faire irradier. Elle qui fit écrire sur sa pierre tombale, Nathalie Clifford Barney, écrivain. Elle fut l'Amazone de Rémy de Gourmont. Je suis cet être légendaire où je revis.
Voilà. Merci.